Chapitre 8. Le mensonge et la vérité. L'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité. Pablo Picasso. 1. Vous me devez une explication. Je ne vous dois rien du tout. La nuit était tombée. Sur le parvis de l'hôpital Pompidou, Madeleine et Gaspard attendaient le taxi qu'ils venaient de commander. Deux silhouettes sombres et fébriles qui se détachaient devant le paquebot de verre amarré sur la Seine. Gaspard avait la mine grave et la tête lourde, une main recouverte de pansements, l'autre enserrée dans une attelle. « Je vous signale que c'est grâce à moi si le propriétaire de la boutique n'a pas porté plainte contre vous », reprit Madeleine, exaspérée. « C'est plutôt grâce au chèque exorbitant que je lui ai signé », contesta-t-il. « Mais bon sang, qu'est-ce qui vous a pris de vous attaquer à cette vitre qui ne vous avait rien fait ?» La blague ne dérida pas Gaspard. Le taxi, une Mercedes blanche, mit son clignotant et stoppa devant eux. Voyant que l'un des passagers était blessé, le chauffeur descendit pour leur ouvrir la portière. La voiture démarra, longea le quai de Grenelle et traversa le 15e arrondissement par la rue de la Convention. Alors qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge, Gaspard se fit plus loquace. Le nez collé à la vitre, il livra une drôle de confidence. « Je suis né à trois rues d'ici, vous savez, à la maternité Sainte-Félicité, en 1974. » Madeleine avoua sa surprise. « J'ai toujours cru que vous étiez américain. »« Ma mère était américaine », précisa-t-il alors que la Mercedes redémarrait. À l'époque, après son diplôme à Yale, elle avait décroché un job à Paris, chez Coleman & Wexler, un grand cabinet d'avocats new-yorkais qui venait d'ouvrir des bureaux dans la capitale. « Et votre père ?» Il s'appelait Jacques Coutances et était originaire du Calvados. Titulaire d'un CAP de maçonnerie, il était monté à Paris pour travailler comme chef de chantier dans une entreprise de travaux publics. Un attelage hétéroclite. C'est un euphémisme. Mon père et ma mère n'avaient strictement rien en commun. Pour être franc, j'ai même du mal à imaginer comment j'ai pu être conçu. Ma mère a sans doute éprouvé un certain frisson à s'encanailler avec un homme du peuple. Bref. Leur relation fut météorique, quelques jours pendant l'été 1973. C'est votre mère qui vous a élevé? Dès ma naissance, elle a cherché à évincer mon père, allant même jusqu'à lui proposer de l'argent pour qu'il ne me reconnaisse pas, mais il ne s'est pas laissé faire. Plus tard, elle a imaginé tous les stratagèmes et les mensonges possibles pour réduire son droit de visite à la portion congrue. En gros, j'avais le droit de le voir 2 heures par semaine, le samedi après-midi.
C'est assez ignoble.
Je crois qu'on peut dire ça, en effet. Heureusement, la plupart du temps, j'étais gardé par une nounou formidable. Une Algérienne, prénommée Jamila, qui avait été émue par la détresse de mon père. Le taxi fit une légère embardée et invectiva les deux touristes en vélib, visiblement paumés, qui roulaient au milieu de la chaussée. Comme ma mère était rarement à la maison, poursuivit Gaspard, Jamila laissait mon père me rencontrer en cachette le soir après l'école et le mercredi après-midi. C'était nos moments à nous. On allait jouer au foot au parc, voir des films au cinéma. Il me faisait même réviser mes leçons dans les cafés ou sur les bancs de la place Fürstenberg.
Mais comment votre mère a-t-elle pu ne pas s'en rendre compte?
Parce que mon père et Jamila étaient très prudents. Moi, j'étais petit, mais j'ai réussi à conserver le secret. Jusqu'à... La voix de Coutances se fit moins assurée. Leur voiture ralentit et suivit les instructions d'un agent en tenue qui réglait la circulation devant le commissariat central du 15e, où plusieurs véhicules sérigraphiés patientaient en double file, moteur allumé, gyrophare clignotant. « C'était le dimanche qui a suivi l'anniversaire de mes 6 ans », reprit-il. Alors qu'elle s'y était toujours opposée, ma mère a soudain fait volte-face et cédé à une demande que j'avais formulée 3 semaines auparavant. Aller voir l'Empire contre-attaque au Grand Rex. Je l'ai déjà vu avec papa. La phrase m'est sortie de la bouche, comme un cri du cœur. Je me suis repris tout de suite, mais le mal était fait. En 3 secondes, j'avais signé l'arrêt de mort de mon père.
Comment ça, l'arrêt de mort?
Ma mère a mené son enquête et harcelé Jamila, qui a été obligée de lui lâcher le morceau. En apprenant la vérité, elle a piqué une colère effroyable, viré la nounou, et attaquer mon père en justice pour enlèvement d'enfant. Une juge a imposé à mon père une ordonnance d'éloignement lui interdisant tout contact avec moi. Comme il ne supportait pas cette injustice,
il a pris l'initiative naïve de se rendre au domicile de la femme de loi pour essayer de plaider sa cause. « Mauvaise idée !» souffla Madeleine. « Mon père avait le tort de croire en la justice. La juge ne lui a fait aucun cadeau. Au lieu de l'écouter, elle a prévenu le commissariat prétendant avoir reçu des menaces et ne pas se sentir en sécurité. Mon père a été arrêté et incarcéré. La même nuit, il s'est pendu dans sa cellule. » Madeleine le regarda, atterré. Refusant de s'apitoyer, Gaspard ne laissa pas le silence s'installer. « On me l'a caché, bien sûr. Je n'ai appris cet épisode que des années plus tard. À l'époque, j'avais 13 ans et j'étais en pension, à Boston. Depuis ce jour-là, je n'ai plus adressé la parole à ma mère. » Il se sentait étonnamment calme à présent, presque soulagé, apaisé d'avoir livré des bribes de son histoire. Se confier à une inconnue avait des vertus. Une parole plus libre, débarrassée des barrières du jugement. « Ce n'est pas la vitrine que vous avez voulu frapper tout à l'heure, n'est-ce pas ?» Il esquissa un sourire triste. « Non, bien sûr, c'était moi. » Alors qu'ils arrivaient au coin du boulevard du Montparnasse et de la rue du Cherche-Midi, il repéra une coupe d'Igi dont le clignotement couleur mentalo électrisait la nuit. Il demanda au taxi de le déposer devant la pharmacie pour acheter les antalgiques qu'on lui avait prescrits à l'hôpital. Madeleine descendit avec lui. En faisant la queue dans l'officine, elle cherchait comment alléger l'atmosphère et finit par lancer pour plaisanter. « Ça tombe mal, cette blessure. Du coup, vous ne pouvez plus cuisiner. » Il la regarda sans savoir à quoi s'en tenir. Elle poursuivit « C'est vraiment dommage car j'ai une faim de loup, moi. J'aurais bien mangé un autre de vos risottos. Ouais, si vous voulez, je vous invite au restaurant. J'admets que je vous dois bien ça. » «
D'accord. »
« Où souhaitez-vous aller ?»
« Et si on retournait au Grand Café ?»
2. De nouveau, ils passèrent un dîner aussi agréable qu'inattendu. Tout heureux de les revoir, le patron les laissa choisir leur table, au fond du restaurant, face à la fresque en mosaïque de Sean Lawrence. Gaspard avait recouvré des couleurs, il relata sa visite traumatisante chez Penelope Lawrence et la bouffée délirante qu'il avait emportée quand il l'avait quittée. Avec force anecdote, Madeleine raconta en détail sa rencontre passionnante avec Jean-Michel Fayolle, qui lui avait brossé la quête obsessionnelle de Lawrence pour trouver des couleurs adaptées aux exigences de sa vision. Sean voulait peindre quelque chose qui n'existait pas dans la réalité. Cette parole du marchand de couleurs l'avait marqué, elle aiguisait sa curiosité. Qu'avait cherché à représenter le peintre en composant ses dernières toiles ? Quelque chose qu'il avait vu ? Un songe ? Un produit de son imaginaire ? Louis de Funès entra dans leur salle, version grand restaurant. « Le millefeuille aux pigeons !» annonça Septime en posant devant eux deux assiettes brûlantes. Comme Gaspard avait les mains bandées, Madeleine s'assit à côté de lui pour lui couper sa viande. Le dramaturge se laissa faire de bonne grâce et Madeleine lui reconnut mentalement cette qualité de ne pas chercher tout le temps à jouer à l'homme. Comme il fallait s'y attendre, ils passèrent une bonne partie de leur repas à examiner la fresque de Lawrence. Madeleine avait posé sur la table, à côté de son verre d'eau, la boîte d'allumettes du restaurant ornée de la citation d'Apollinaire, ultime legs de Lawrence à Bernard Bénédicte, et ultime pied de nez. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Quel message le peintre avait-il cherché à adresser à son ami? Sa signification se trouvait-elle dans la mosaïque? Il voulait y croire, mais plus il regardait la fresque, moins elle leur parlait. Madeleine pensait qu'elle ressemblait à certains paysages de jungle du douanier Rousseau. Gaspard, lui, se souvenait très bien du livre de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, que Jamila lui lisait lorsqu'il était enfant. Madeleine avait aussi des souvenirs assez nets de l'énorme crocodile. Cédant à la nostalgie, ils se mirent en tête de retrouver le nom des différents personnages. Jojo la malice, le singe, Dodu de la plume, l'oiseau, et Double croupe, l'hippopotame, leur revinrent tout de suite. Et l'éléphant ?
Facile. Trompette, affirma Gaspard.
Et le zèbre ?
Le zèbre, je ne sais plus.
Zébra ?
Non, ça ne me dit rien. Je ne me rappelle même plus son rôle dans l'histoire.
Après quelques minutes de discussion, Madeleine prit son portable pour chercher sur Internet ce zèbre qui leur échappait. Pendant qu'elle pianotait, Gaspard se leva soudain et lui lança, sûr de lui, « Laissez tomber, il n'y a pas de zèbre dans l'énorme crocodile. » Madeleine se leva à son tour, électrisée. Dans ce cas, pourquoi Lawrence, qui connaissait parfaitement l'histoire puisqu'il la lisait tous les soirs à son fils, en avait-il représenté un? Ce n'était pas encore un eureka, mais il tenait enfin une piste stimulante. Ils déplacèrent une table et deux chaises afin d'observer le zèbre de plus près. C'était d'ailleurs l'animal le moins réussi de la scène. Le mammifère était figé, saisi de trois quarts, sans aucune grâce. Une agglomération de carrés blancs et noirs de 2 cm de côté. Gaspard compta les carrés, imagina différentes possibilités de cryptage, du morse, des notes de musique, des codes à grille, comme il en faisait chez les scouts. « Oubliez ça !» lui jeta Madeleine. « On n'est pas dans le Da Vinci Code !» Contrariée, elle sortit fumer une cigarette sur le trottoir. Il la rejoignit sous l'auvent qui abritait la devanture du restaurant. La pluie avait repris, toujours plus drue, impitoyable, et le vent était désormais de la partie. Gaspard protégea Madeleine des rafales pour lui permettre d'allumer sa cigarette. « Ça s'est bien passé, votre rendez-vous avec votre ami ? J'espère que vous n'avez pas dû l'écourter à cause de moi. Figurez-vous que je venais à peine de la rejoindre lorsque je vous ai vu en train de vous acharner à coups de poing sur cette pauvre vitrine. » Un peu honteux, Gaspard baissa la tête. « Vous auriez dû passer la soirée avec elle. Jules ne faisait qu'une courte escale à Paris. Elle devait reprendre un avion pour aller passer Noël à Marrakech, avec son amoureux. Il y en a qui ont de la chance, n'est-ce pas ?
Je suis désolé, vraiment. »
Elle ne chercha pas à l'accabler. « Ne vous en faites pas, ce n'est que partie remise. Jules est ma plus vieille et ma seule amie. Elle m'a déjà sauvé la vie 2 fois. » Le regard fuyant, Madeleine tira une longue bouffée sur sa cigarette. Elle hésita à poursuivre, puis finalement, « La dernière fois, c'était il y a 8 mois. D'une certaine façon, il m'est arrivé la même chose qu'à vous aujourd'hui. »
Les yeux écarquillés, Gaspard la regarda sans comprendre ce qu'elle voulait dire.
« C'était un samedi matin, » reprit-elle. « Je me baladais dans une galerie commerciale à Londres lorsque j'ai aperçu un petit garçon souriant, un petit ange, blond à croquer, avec des lunettes rondes colorées. Il me faisait des sourires que je trouvais familiers. L'impression étrange de le connaître, vous voyez ? Lorsqu'il s'est jeté dans les bras de son père, j'ai compris d'où me venait cette sensation. C'était le fils d'un homme que j'avais aimé quelques années plus tôt. Un homme qui m'avait quitté pour retourner avec sa femme et faire un autre enfant.
Un tordu ?
Non, justement. Un type bien. C'est ça qui est désespérant. Une relation sérieuse en laquelle j'avais beaucoup cru. Il s'appelait Jonathan l'Empereur. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. C'est l'un des chefs français les plus réputés au monde.
Gaspard émit un grognement dont il était difficile d'interpréter le sens.
Je ne sais pas pourquoi il m'a quitté. Je ne sais pas ce qui cloche en moi. Je ne sais pas ce que je ne fais pas bien. Bref, ce matin-là, j'étais désemparé et je me suis effondré. Le temps que je rentre chez moi, j'étais au fond du gouffre. Mais au lieu de donner des coups de poing dans une vitre, je me suis tailladé les veines dans mon bain. Vous voyez, à côté de moi, vous êtes un petit joueur.
Et c'est votre ami qui vous a retrouvé ?
Elle acquiesça en inhalant une dernière bouffée de tabac. J'avais rendez-vous avec elle ce jour-là. En ne me voyant pas arriver et en constatant que je ne répondais pas au téléphone, elle a été prise d'un mauvais pressentiment et a décidé de venir chez moi. Si la gardienne n'avait pas eu les clés, je crois que j'aurais passé l'arme à gauche. Il s'en est vraiment fallu de peu. J'ai été hospitalisé pendant 1 semaine, puis j'ai fait un séjour de 2 mois dans l'un de ces sympathiques établissements qu'on appelle HP, pour m'éclaircir les idées, reprendre ma vie et retrouver le sens des priorités. La suite, vous la connaissez. Gaspard voulut poser une question, mais Madeleine ne lui en laissa pas le temps. Allez, offrez-moi un dessert. J'ai repéré leur tarte fine aux pommes, ça a l'air d'être une tuerie, comme ils disent ici.
3. Gaspard regagna l'intérieur bruyant mais chaleureux du grand café. Avant de le suivre, Madeleine jeta son mégot et l'écrasa avec la pointe de sa bottine. Son téléphone vibra dans la poche de son blouson. Comme elle avait déjà ignoré plusieurs appels ces 2 dernières heures, elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un SMS de la clinique espagnole.
Bonsoir Madeleine, le contrôle folliculaire est parfait, c'est le moment de venir à la clinique. Nous vous attendons demain à Madrid. Très bonne soirée, Sophia. L'infirmière avait joint le scan d'une ordonnance pour l'achat d'un antibiotique et d'une hormone qui stimulerait la libération des ovules. Il fallut un moment à Madeleine pour prendre vraiment conscience de ce que cela signifiait. Elle rejoignit Gaspard à l'intérieur et, après une hésitation, lui fit part de la nouvelle.
« Je me réjouis pour vous.
Vous m'excusez, mais il faut que je prenne mes billets d'avion, » dit-elle en sortant sa carte de crédit, puis en se connectant au site d'Air France avec son smartphone.
« Bien sûr. »
Il grimaça en secouant la main droite. La douleur s'était réveillée et ses blessures lui faisaient à présent un mal de chien. Il saisit les antalgiques dans sa poche et avala directement 3 comprimés. Par acquis de conscience, il jeta quand même un œil sur la boîte pour vérifier la posologie.
« Qu'est-ce que c'est que ça ? » cria-t-il soudain presque surexcité.
Madeleine leva les yeux de son écran pour regarder ce qui intriguait Gaspard. Le code-barre à 2 dimensions imprimé sur la boîte de médoc. À son tour, elle comprit.
Le zèbre, c'est un QR code.
Elle quitta immédiatement son navigateur et se connecta à la boutique d'applications de son téléphone pour lancer le téléchargement gratuit d'un module capable de lire les flashcodes.
Un QR code?
C'est quoi exactement? Demanda Gaspard, complètement étranger à toutes les nouvelles technologies.
Comme vous le devinez, une image composée de carrés noirs et blancs qui, après qu'on l'a scannée, renvoie à un message, un site internet ou des coordonnées géographiques.
Gaspard hocha la tête. Ainsi, Lorenz avait eu l'idée de recréer un QR code avec de la mosaïque et de l'intégrer dans sa représentation d'un zèbre.
Pas bête.
Je sais que vous vivez en dehors du monde, le taquina Madeleine,
mais c'est très commun aujourd'hui. On en trouve partout, sur les emballages, dans les musées, sur les cartes ou les titres de transport.
Le téléchargement terminé, elle ouvrit l'application et se leva de table pour se rapprocher de la fresque. Avec l'appareil photo de son téléphone, elle scanna le zèbre. Immédiatement, un message s'afficha sur l'écran.
« We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. »
Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. La célèbre phrase d'Oscar Wilde les laissa un peu désappointés. Ils avaient tous les deux espéré quelque chose de moins hermétique, une position GPS, une vidéo.
« On ne peut pas dire que l'on soit plus avancé, » maugréa Gaspard.
Madeleine restait silencieuse. Il fallait remettre ce message dans son contexte. Il était manifestement adressé à Bernard Bénédic, en complément de la citation d'Apollinaire. « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Le point commun de ces deux citations était clair, peut-être même un peu trop. La référence aux étoiles.
« L'étoile, c'est le symbole le plus vague qui soit, » balaya Gaspard. « On en trouve dans la plupart des religions et des croyances ésotériques. Ça peut signifier un tas de choses. » L'ordre cosmique, la lumière céleste, le repère à suivre pour ne pas se perdre.
Madeleine approuva. Pour aller au fond de ses interrogations, elle appela Bénédic. Malgré l'heure tardive, le galeriste lui répondit dès la 2e sonnerie. Sans s'apesantir sur leur découverte, elle lui demanda si l'expression « les étoiles » avait un sens particulier pour Sean.
« Pas que je sache, pourquoi ? Vous avez trouvé quelque chose ?»
Lorenz a-t-il déjà peint des étoiles ?
Je ne crois pas. Pas ces 10 dernières années, en tout cas. L'étoile serait un symbole un peu trop signifiant pour lui.
Merci.
Elle s'empressa de raccrocher pour l'empêcher de poser des questions. À présent, toute l'euphorie était retombée. Pendant 2 longues minutes, chacun se retrancha dans ses pensées, jusqu'à ce que le portable de la jeune femme vibre sur la table. Bénédic, de nouveau. Après un moment de doute, elle décrocha et mit le haut-parleur.
« Une idée en passant, » dit le galeriste. « Ça n'a peut-être rien à voir, mais Julian, le fils de Sean, était scolarisé à l'école des étoiles, à Montparnasse. »
Gaspard tilta immédiatement. Il recula sur sa chaise et mima un temps mort avec ses mains bandées pour faire signe à Madeleine d'interrompre la conversation. Lorsqu'elle eut raccroché, il lui parla de ses 2 photos dans la maison, sur lesquelles on voyait Lorenz peindre avec des enfants, et lui rappela ce que lui avait dit Pauline. Même après la mort de Julian, Sean avait continué à animer un atelier de peinture dans l'école de son fils. Madeline avait gardé son téléphone à la main. Navigateur, Google Maps. L'école des étoiles était un établissement privé à la pédagogie innovante qui scolarisait les enfants dès 2 ans et demi. Une structure alternative, tendance Montessori et Freinet, telle qu'il en existait de plus en plus dans la France de 2016. Madeline examina la carte. Les locaux n'étaient pas loin. Logique, les Lorenz avaient scolarisé leurs rejetons à proximité de leur maison. « On y va !» lança-t-elle en attrapant son blouson et en posant 3 billets sur la table. En décampant du restaurant à la suite de la jeune femme, Gaspard faillit renverser Septime qui arrivait avec leur tarte aux pommes.